20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est l'un des plus beaux disques du moment. Il est sorti aujourd'hui même chez Erato et sera la semaine prochaine trophée Radio Classique. C'est le nouvel album du quatuor Eben qui s'est associé ici à un grand complice, l'altiste Antoine Tamestit, pour enregistrer les deux sublimes quintettes Köchel 515 et 516, deux chefs-d'œuvre de Mozart. Il nous en livre une lecture aussi saisissante que touchante. Pierre Colombet et Gabriel Le Magadur, les deux violonistes du quatuor, seront justement à notre micro ce soir. Le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. La maison de vente aux enchères Agut à Neuilly rouvre son département historique instruments et archers qui était fermé depuis presque 20 ans et en confie la responsabilité à un ancien violoniste, Hector Chemel. Une réouverture impulsée par la vente en juin de l'année dernière d'un Guarneri de 1736 par le violoniste David Garrett pour la somme de 4,6 millions d'euros, puis celle plus récente de la guitare Trianon attribuée à la reine Marie-Antoinette. Alors la prochaine vente publique aura lieu le 7 juin et sera consacrée aux instruments du quatuor. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le Palazzetto Bruzane vient de dévoiler sa prochaine saison 2023-2024, qui, nous promettons, sera faite de voyages et d'hommages. Des voyages avec notamment le cycle au Miroir des Mondes, qui mettra en lumière les inspirations étrangères dans la musique française du 19e siècle. Des hommages avec les commémorations du bicentenaire de la naissance d'Édouard Lalo, ainsi que du centenaire de la mort de Gabriel Fauré et de celle de Théodore Dubois. Gabriel Fauré, dont le Palazzetto Bruzane mettra en avant les élèves, si nombreux et prestigieux élèves, de Nadia Boulanger à Maurice Ravel, en passant par Florent Schmitt, Georges Enesco ou encore Charles Koechlin. Des concerts qui se tiendront entre Venise, Paris, ainsi que d'autres grandes villes européennes et fédéreront de formidables musiciens qui, pour la plupart, sont des fidèles du Palazzetto Bruzane. Des concerts et des productions lyriques avec, parmi les plus attendus, une reconstitution de la version scénique d'origine de Carmen de Bizet, même décor, même costume et même élément de mise en scène sous la direction de Ben Glasberg avec Marianne Crébassa dans le rôle titre. Ce sera à l'Opéra de Rouen en septembre 23. À Dortmund, en janvier prochain, c'est le chef-d'œuvre d'Augustin Holmès, La Montagne Noire, qui sera ressuscité, une œuvre spectaculaire et démesurée, avec Aude Extremo dans le rôle principal. Citons également le tribut de Zamora de Gounod en mai 24 à Saint-Étienne, sous la direction d'Hervé Niquet, ou le Roi 10 de Lalo à Budapest et Amsterdam avec Isabelle Druet, Judith Van Vanroy et Cyril Dubois en début d'année prochaine. Et puis, dans la lignée d'un remarquable enregistrement paru l'année dernière, une version scénique de La fille de Madame Angot de Lecoq à la rentrée prochaine à l'Opéra Comique. délicieuse valse de la fille de Madame Angot de Lecoq dans l'enregistrement publié par le Palazzetto Bruzane l'année dernière, dirigé par Sébastien Roulant, à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris et du chœur du concert spirituel, avec notamment Véronique Gens. Véronique Gens qui sera de la distribution de la version scénique de cette fille de Madame Angot, dirigée par Hervé Niquet, dans une mise en scène de Richard Brunel, avec également Hélène Guillemette et Julien Bert. Une production à découvrir en septembre 2023 à l'Opéra Comique, l'un des moments forts de la prochaine saison du Palazzetto Bruzane qui vient donc d'être dévoilé et que nous suivrons avec beaucoup d'attention.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Après leur grande aventure Beethoven, ce formidable projet Beethoven, associé même à un tour du monde, les musiciens du Quatuor Eben reviennent à Mozart, Mozart dont ils nous livrent aujourd'hui leur lecture au disque du fameux diptyque associant les quintettes Köchel 515 et 516, qui comptent parmi les sommets du répertoire de la musique de chambre, du répertoire tout court d'ailleurs, et qu'ils ont enregistré avec un fidèle complice, l'altiste Antoine Tamestit, un enregistrement tout juste sorti chez Erato et pour lequel nous avons eu un véritable coup de foudre sur Radio Classique puisqu'il sera la semaine prochaine trophée. Alors Pierre Colombet et Gabriel Le Magadur, les deux violonistes du Quatuor Eben, sont avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Après avoir passé tant de temps, tant de mois et même d'années plongés dans la musique de Beethoven, vous aviez envie de revenir à Mozart. Mozart s'est imposé comme une évidence.
Ben, en fait, ça a été un...
Gabriel.
Comment dire ça? On l'a fait pendant le... Si je dévoile les secrets de ce disque, on l'a fait pendant le Covid. Donc ça fait longtemps qu'on attendait sa sortie. Et en fait, on était encore, nous, dans... C'était en plein été. Et on était encore entre deux annulations beethoveniennes. Liées au Covid. Et puis on a appelé Antoine. Ça fait très longtemps qu'on veut faire... l'intégrale de ses quintettes au disque, mais c'est vrai que ces deux-là, particulièrement, on les a joués beaucoup ensemble depuis des années, et on s'est dit, bon, qu'est-ce que tu fais pendant l'été, parce que nous, c'est foutu, tout est annulé, ah bah toi aussi, bon, c'est peut-être l'occasion de se réunir, et puis de ensemble de faire quelque chose bah, qui nous corresponde, et qui était dans cette situation dramatique, une sorte de renaissance.
Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le Covid, le temps a ralenti. Tout s'est un petit peu arrêté. On était chez nous. Il y a eu tous ces confinements. Et on a eu ce désir, vraiment, de jouer du Mozart. Après, c'est vrai qu'on a décidé de l'enregistrer, finalement. Mais de se retrouver en répète avec Antoine, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On avait l'impression de pas d'avoir vu personne pendant des mois. De se retrouver en répétition, c'était tellement émouvant. Au milieu de ce vide, et de jouer du Mozart... Je crois que le moment était très très bienvenu pour avoir du calme, avoir les oreilles ouvertes et tout ce temps devant nous en fait. Je crois que pour Mozart, il faut du calme et du temps. Voilà, le moment était bienvenu et c'est vrai qu'au milieu de la tempête Beethoven, on s'est vraiment ressourcé et on a eu un plaisir fou parce qu'on se demande toujours après l'intégrale Beethoven, qu'est-ce qu'on va bien jouer ? Parce que c'est pour un quartettiste, jouer l'intégrale, c'est peut-être ce qu'on attend le plus dans notre vie. Et c'est une musique tellement complète qu'après, on se demande ce qu'on va bien pouvoir jouer. Et là, Mozart, en fait, s'impose comme une source de pureté et de perfection et d'évidence, en fait, par rapport à la musique de Beethoven qui est très chargée, torturée, qui a été malmenée dans tous les sens pour arriver à quelque chose de véritablement extraordinaire. Mais Mozart, on a l'impression que tout est tombé sur la partition comme ça, de façon magique, et ça nous a fait un bien de se ressourcer autour de cette musique-là pendant ces périodes difficiles. Thank you.
L'allegro final du quintet Köchel 515 de Mozart par le quatuor Eben avec l'altiste Antoine Tamestit. Le quatuor Eben dont les deux violonistes, Pierre Colombet et Gabriel Magadur, sont avec nous ce soir sur Radio Classique. Ce quintet, ne serait-ce que ce mouvement, il est lumineux, il est gracieux, il est heureux, il est opératique aussi. C'est une musique avec laquelle on chante, avec laquelle on dialogue, on invente des histoires, des personnages. Gabriel ?
Oui, c'est vrai que les deux quintettes sont extrêmement opératique. Dans le sol mineur, il y a plus de Don Giovanni, il y a des choses extrêmement profondes. Et puis c'est vrai que dans celui-là, il y a une sorte de légèreté, même si le mouvement lent de celui-ci, qui précède ce qu'on vient d'entendre, est d'une émotion, d'une densité émotionnelle hallucinante, avec un dialogue entre le premier violon et l'alto. Enfin, je trouve que c'est la musique de Mozart, elle est dure à décrire, parce que c'est une évidence telle. C'est peut-être la musique la plus parlante pour le lambda, même la personne qui connaît pas du tout la musique. Ça peut lui tirer des larmes et des émotions très très profondes. Donc du coup, même nous, venir parler de ce disque, je sais pas comment dire, c'est comme si je ressentais tout, parce que le langage est tellement évident, c'est tellement écrit parfaitement. Souvent, on s'est dit, en répétition avec Antoine, on s'arrêtait sur des harmonies, sur des façons de composer. On a l'impression que le fait d'avoir été 5 au lieu de 4, c'est encore plus beau, encore plus enrichi. Parce qu'entre l'équilibre du violoncelle et du premier violon, il y a un espèce de ventre parfait et de poumon du groupe. Et du coup, on s'arrêtait, on se disait, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est tout, quoi. Il n'y a même pas besoin de l'analyser, cette musique. Elle touche à l'âme directement.
Oui, il faut l'écouter, l'apprécier. Jouer un quintet, c'est donc, ce n'est pas être 4 plus 1, c'est créer une autre texture à 5, avec un musicien, Antoine Tamestit, que vous connaissez depuis 20 ans, avec lequel, justement, la fusion se fait de façon évidente, Pierre.
Oui, c'est une des cinquièmes personnes du quatuor. Oui. En toute évidence, et on a une longue histoire avec ces deux œuvres, justement, avec Antoine, parce que tout a commencé au concours de l'ARD à Munich. On a été lauréat, le quatuor et lui, en 2004, la même année. Il y a eu un raz-de-marée français cette année-là.
C'était comme les Jeux Olympiques.
Il y avait Magali Moni à la flûte, il y avait Nabila Chajaï à la harpe, voilà. Et on s'est retrouvé à faire des tournées des lauréats de l'ARD avec ces œuvres-là, avec Antoine. Et on se souvient de certaines sorties de concert, on se tombait dans les bras avec les larmes aux yeux, en se disant, mais qu'est-ce qui nous arrive? On comprend cette musique tellement profondément, tout d'un coup, comme une révélation. Antoine nous apporte énormément, est une magnifique source d'inspiration pour nous, parce qu'il a une façon, il est très très précis dans son travail, très exigeant, et il a ce désir de parfaire chaque minute tout ce qu'il joue. Il nous a même appris à jouer sur nos... On avait des nouveaux instruments à cette époque-là. Il nous a appris à jouer sur ces magnifiques instruments. Et comment dire, il a cette... comme une cinquième personne qu'on choisirait pour un quatuor. Voilà, on choisit les membres de quatuor parce qu'ils nous inspirent, pas seulement parce qu'ils sont complémentaires, mais aussi parce qu'on peut tirer d'eux encore plus que ce à quoi on aspire. Voilà. Donc Antoine, oui, évidence absolue pour ce disque. Ouais.
Voilà, donc ce disque qui réunit ces deux quintettes, 515 et 516 de Mozart, qui forment un véritable diptyque, dont l'un est plutôt heureux et lumineux, et le second, en sol mineur, le 516, dramatique, avec cette tonalité de sol mineur. C'est véritablement la tonalité du désespoir chez Mozart.
Peut-être bien. En tout cas, ce que je trouve fabuleux chez Mozart, c'est que oui, on n'a pas l'habitude, en fait, d'entendre un Mozart désespéré. Quand on pense Mozart, on pense tout d'abord grazioso, on pense enlevé, on pense léger. Et quand il écrit le désespoir, cette musique est encore plus abattue que n'importe quelle autre musique. On le sent, par exemple, dans cette introduction du final du sol mineur, qui est presque comme un requiem, comme un adagio infini, une éternité de solitude et un abattement total, mais qui en même temps, comment dire, en tant que musicien, quand on joue cette musique, on ressent beaucoup de tristesse et d'émotion, mais on n'est pas triste non plus, parce qu'on est tellement heureux de jouer une telle musique, une telle beauté, que finalement, l'engouement et la joie ressortent d'avoir eu le privilège de défendre cette musique et de défendre le génie humain. On peut toujours se poser la question de quel est notre rôle d'artiste. Et je crois qu'en fait, l'être humain est capable du pire comme du meilleur. Et nous, notre rôle, c'est de défendre le génie de l'être humain. Il est un être humain capable de choses aussi incroyables. Et Mozart, ce qui est curieux avec lui, c'est qu'il est capable de faire pleurer dans des tonalités majeures. Et ça, c'est très, très rare. Je pense au mouvement lent des dissonances, je pense à ce mouvement lent du 515, qui est totalement apaisé. Mais pourquoi, quelque part, on se sent encore plus ému dans une tonalité majeure chez Mozart que dans le désespoir d'un sol mineur? C'est ça qu'on n'explique pas.
Mais le désespoir de Mozart, ce n'est pas le désespoir de Beethoven. Il y a une certaine retenue, une certaine pudeur, en tout cas une autre façon de l'exprimer. On n'est pas encore pleinement dans le romantisme, Gabriel, avec Mozart.
C'est sûr. Moi, je l'assimile beaucoup à Schubert, cette sensation. Je trouve que ces deux compositeurs, ils ont ce lien-là, et ce que vient de dire Pierre est très juste. Notre mentor, Eberhard Fels, nous avait dit une fois, Schubert, c'est le majeur avec les larmes et puis le mineur avec le sourire quelque part. Et je retrouve ça chez Mozart. En fait, je pense que c'est lié à la vocalité. C'est que chez lui, dans un mouvement qu'on pourrait appeler torturé, même dans ce qui précède le final du sol mineur, il y a une solitude, il y a une sécheresse, il y a un désespoir, mais il y a quand même une voix. Il y a une vocalité. Donc c'est comme si c'était une voix intérieure, en fait. On n'est pas dans l'abstrait, on n'est pas dans quelque chose. Peut-être, effectivement, où Beethoven, dans ses quatuors, va aller dans des choses comme s'il allait à des milliers d'années de nous, dans le presque comme s'il était la planète la plus loin du système solaire. Mozart, je trouve qu'il y a toujours une proximité. Il a une voix angélique, mais il garde les pieds sur terre aussi. Et cette voix, je la trouve très parlante tout le temps, en fait.
Thank you. Le premier mouvement du quintet Köchel 516 de Mozart, un nouvel extrait de ce merveilleux album qui réunit donc le quatuor Eben et l'altiste Antoine Tamestit, un album qui vient de paraître chez Erato et que l'on évoque ce soir avec les deux violonistes du quatuor Eben, Pierre Colombet et Gabriel Le Magadur. Un nouvel enregistrement donc chez Erato, sorti aujourd'hui même, et puis un agenda de concerts bien rempli à vous donner le tournis. Vous êtes sans cesse sur les routes, beaucoup en Allemagne. C'est toujours en Allemagne que le public du quatuor est le plus important, Pierre.
Oui, mais pour nous, c'est un peu spécial parce qu'il y a eu le concours de l'ARD qui nous a propulsé dans le monde du travail.
Et du coup, vous avez gardé des liens très forts avec les scènes allemandes.
Oui, après ce concours, on est passé de 20 concerts par an à 130. Hein. Voilà.
Et dont une grande partie.
Une grande partie en Allemagne. Et évidemment, on est ravis de jouer en Allemagne parce que le public est très averti, bien sûr, même si on a un petit pincement quand même de pas jouer plus souvent en France, dans notre pays, et on adore ça, bien sûr, mais c'est vrai qu'en Allemagne, il y a toujours un public pour comprendre la profondeur de notre travail. Je dis pas qu'en France ça ne se passe pas, hein, bien sûr,
mais il y a une tradition,
c'est systématique, il y a une vraie tradition.
Oui, même dans les salles, parfois, très reculées, on se dit, bon, bah, ce soir, au moins, c'est pas, je sais pas, la Philharmonie de Berlin ou Ligmoral, c'est une petite, et puis d'un coup, on voit au premier rang, une personne âgée avec le conducteur, qui est venu avec les partitions, qui nous scrute. Enfin, ça arrive là-bas. Ça arrive plus souvent que dans les autres pays, et ça met une sorte de pression permanente aussi. Mais bon, c'est paradoxal. Ça galvanise.
Alors, les concerts ont véritablement repris. Votre agenda, il est aussi rempli qu'il l'était avant la pandémie.
Oui, j'ai l'impression encore que dans certaines contrées, le public a un peu du mal à se déplacer, qu'ils sont encore un petit peu frileux à des moments de se dire, bon, on ressort pleinement, on profite pleinement. Moi, je trouve que cette période de Covid a quand même aurait pu prendre un tournant assez néfaste si l'avènement du streaming et des vidéos avait continué, parce que je trouvais que c'était pas une fin en soi. Je comprends tout à fait l'idée de faire ça pour continuer à exister, pour que la musique ne meure pas. C'est très bien, mais quand ça devient quelque chose comme, tiens, une alternative au concert, ça, je trouve pas du tout. Donc, quelque part, retrouver le moment du concert, je trouve que c'est à nous de faire redonner envie au public de venir, mais c'est aussi au public de se dire, allez, on fonce, tout va bien, et on va reprofiter comme avant, parce que c'est essentiel.
Bah, rien ne vaut les frissons du vrai concert, de la musique.
On ne peut pas comprendre un interprète, même. Ouais. La musique, on peut la comprendre par disque, mais un interprète, et ce qui veut dire, on va être beaucoup plus dur en disque, en fait. Ouais. Parce qu'on ne va pas la sentir, on ne va pas comprendre ses vibrations personnelles. Et le concert est absolument indispensable pour comprendre ce qui se cache derrière un interprète.
Alors, heureusement, il y a quelques concerts en France, du Quatuor Eben à venir. Vous serez le 26 mars à l'auditorium de Radio France, où vous jouerez Schumann, Ravel, ainsi qu'une œuvre de Richard Dubugnon. On pourra vous entendre également au mois d'avril à Pau et à Deauville. Et ces quintettes de Mozart, vous les jouerez avec Antoine Tamestit le 29 avril au Luxembourg, le 30 avril à la Philharmonie de l'Elbe. Vous avez d'autres projets avec d'autres artistes. J'ai vu que vous jouez par exemple les octeurs de Mendelssohn et d'Enescu avec le quatuor Belchea.
Oui. J'allais vous en parler, oui. Ça, c'est notre projet futur, oui, d'enregistrement d'octeurs avec nos collègues, nos amis. Hein, maintenant, c'est devenu vraiment on a toujours respecté énormément ce quatuor pour tout ce qu'ils ont apporté au genre du quatuor à cordes, mais de les connaître et de voir le sérieux avec lequel ils travaillent et le niveau qu'ils ont tous les quatre ensemble, c'est vraiment devenu des très proches.
Oui, il y aura une tournée, il y aura pas mal de concerts encore à venir, et il y aura une tournée aux États-Unis, une tournée au Japon avec eux. Et puis dans les projets futurs aussi, là on a un an pour écrire un programme électro.
Voilà. Ah oui, parce qu'il y a aussi cette autre facette du Quatuor Ébène, que l'on aime beaucoup.
Après Beethoven. Avec notre ami Xavier Tribolet, qui est mon voisin aussi. On va travailler tous ensemble pour mélanger les ondes analogiques à des ondes qui sortent de nos instruments à cordes. Voilà.
Voilà, donc un projet électro, un projet doctuor avec le Quatuor Belchia et ce magnifique projet Mozart dont on profite au disque puisque cela vient de paraître chez Erato, un album que l'on n'a pas fini d'entendre et d'apprécier sur l'antenne de Radio Classique. Merci infiniment Pierre Colombet et Gabriel Lemagadur d'être passés nous voir.
Merci beaucoup.
Les dernières notes du quintet Köchel 516 de Mozart par le Quatuor Ébène et l'altiste Antoine Tamestit. Un nouvel extrait de ce formidable album, tout juste sorti chez Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone Berardi pour sa réalisation. Lundi, c'est avec le ténor Cyril Dubois que nous passerons un petit moment dans ce journal du classique. Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel.